With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma, une nouvelle fois attablé au Club de l'Étoile. Je dis attablé parce que nous avons une petite table sur la scène du Club de l'Étoile où on s'apprête à découvrir ou redécouvrir, pour les chanceux qui l'avaient vu à l'époque, Agora d'Alejandro Amenábar, et on va en causer d'abord avec mon camarade Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut.
Cinociné Extra Ball spécial Agora et c'est parti.
Un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Agora, c'est 2009. Ça s'inscrit comment dans la carrière d'Amenábar?
C'est un projet qu'il a commencé à développer après être sorti du tournage de Mar Adentro. Il avait pris des vacances, en fait, à l'époque, à Malte, et il s'est tapé... C'est un mec qui s'est toujours un peu intéressé aux aliens, aux extraterrestres, et à différentes conspirations, comme tous les geeks, mais aussi à l'astronomie. Et il a commencé à se taper la série de Carl Sagan consacrée à ça, et dans laquelle il y avait plein d'astronomes qui étaient cités, dont Ptolémée et autres, Kepler, etc. Et c'est là qu'il a entendu parler la première fois de ce personnage d'Hypatie. Et ça l'a frappé. Ouais. Et en s'intéressant pas seulement au personnage d'Hypatie, mais à l'époque à laquelle elle a vécu et exercé, il s'est fait la réflexion que cette époque ressemblait beaucoup à la nôtre. Et donc le projet est né de ça. Il avait un autre projet qui était celui de raconter l'espèce humaine avec les yeux d'un extraterrestre, d'ailleurs vu du cosmos. Et en fait, ces deux projets se sont joints. C'est pour ça que dans Agora, on a plusieurs fois l'humanité qui est vue du ciel, ouais. En fait. Comme si une intelligence alien nous observait de loin dans nos petits déploiements, voilà. Et nos pleurnicheries cosmiques. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce geste-là du film, qui est de regarder l'espèce humaine un peu comme on regarderait des fourmis, il correspond parfaitement à la philosophie, au soubassement philosophique de l'époque dont le film nous parle. Puisque donc on est en Alexandrie, au 4e siècle après Jésus-Christ. Et c'est une civilisation qui est au carrefour du reste de l'Antiquité égyptienne, gréco-romaine, et de ces religions sémites qui commencent à monter, donc bien sûr le christianisme. Et au cœur de ça, en Alexandrie, s'est développée une forme de syncrétisme, de synthèse, qui a mêlé le platonisme et le mysticisme oriental, en fait. Sur des analogies. Une des phrases célèbres d'un texte attribué à Hermès Trismégiste, qui est un personnage légendaire dont les Alexandrins aimaient beaucoup parler, une phrase célèbre, c'est « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, par adaptation, pour faire le miracle d'une seule chose ». Cette phrase-là, en fait, elle témoigne bien que tu peux regarder le cosmos et l'humain de façon analogique. Ces deux choses-là se répondent. Et en fait, une fois qu'il a joint ce truc, cette idée de regardons l'humanité vue du cosmos, et je parle d'Hypatie et de la bibliothèque d'Alexandrie, ben il a trouvé sa mise en scène et ce qu'il allait raconter, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la vie d'Hypatie est aussi ce qui se passe au niveau cosmique. Cette femme, on suppose, parce qu'on n'a pas les preuves, on suppose qu'elle travaillait sur le système héliocentrique, c'est-à-dire qu'elle avait l'intuition que la Terre tournait bien autour du Soleil, mais elle n'arrivait pas à comprendre comment, puisqu'elle était obsédée, comme tous les gens de son époque, tous les érudits de son époque, par la forme parfaite du cercle, et que le cosmos étant le monde ordonné, c'était forcément un cercle, donc elle était loin de comprendre que c'était une ellipse, mais elle s'approchait de la solution. Enfin, en tout cas, on suppose, puisqu'on a, encore une fois, on n'a pas les preuves. Si Hypatie avait bel et bien découvert le système héliocentrique, pour resituer un peu pour les gens, ça veut dire que Christophe Colomb aurait été le premier homme sur la Lune, hein, si tu veux.
Donc, en termes de gain, tu veux dire, voilà, de temps.
C'est c'est une façon quand même d'expliquer l'importance qu'a pu représenter la bibliothèque d'Alexandrie, qui, dans laquelle se trouvaient des parchemins qui n'existaient qu'à 2 ou 3 exemplaires dans le monde, ou parfois pas du tout. Ce qu'on a perdu avec cette bibliothèque, c'est quasiment 500 ans de développement philosophique et scientifique. Donc le film raconte aussi ce chapitre-là, même si, encore une fois, c'est pas un film historiquement juste. Les chrétiens n'ont pas détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont détruit le Sérapium, et on pense qu'à l'époque, il y avait déjà très peu de parchemins dans la bibliothèque. Mais ce que Amenabar, il voulait parler de ça, de que quelque chose a été perdu. Et ce qui a été perdu pourra être perdu à nouveau. C'est pour ça que son film, il parle de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Il met en scène des gens qui sont arrivés à un stade de compréhension d'eux-mêmes et du cosmos qui est extrêmement élevé et supérieur, mais qui ont complètement négligé la transmission de ce savoir à tous. Et les plus démunis se sont eux réfugiés dans une religion qui les traite comme presque comme des esclaves affranchis, parce que en leur disant vous valez mieux que des sous-merdes. Et ces gens-là sont animés d'une foi, mais qui est une foi destructrice. C'est des fondamentalistes et ils vont tout péter. Ils s'en foutent que ça soit très joli et très intelligent. Ils vont tout raser et ils gagneront. Et donc la façon avec laquelle le film met en scène les chrétiens, il leur donne des tenues qui ne sont absolument pas historiquement justes, puisqu'en fait, il leur a donné les tenues que portent les talibans aujourd'hui dans les déserts d'Afghanistan. Ce que le film raconte, c'est que vous pouvez vous imaginer tant que vous voulez que le fanatique religieux est un abruti fini, il l'est probablement, il a l'énergie du désespoir qui lui fera détruire votre putain de civilisation qui se croit tellement supérieure. C'est aussi ce que le film cherche à raconter. Et c'est pas un hasard que ce film soit un film espagnol et que ça ait été un carton en Espagne.
Oui.
Parce que les Espagnols sont un peuple qui, de par leur histoire, sont conscients des caprices de l'histoire. C'est-à-dire que eux, ils savent que l'ouvrier maghrébin tout en bas de l'échelle aujourd'hui, il est le descendant direct du sultan qui dominait leur pays au Moyen-Âge, quand ils voient ces magnifiques constructions qui restent à Grenade. Et inversement, ils savent qu'à l'époque où le sultan était là, ils regardaient leurs ancêtres chrétiens comme des péquenauds, en se doutant pas une seule seconde que ces péquenauds allaient complètement le renverser et devenir la civilisation qui allait dominer le monde. Donc ils sont conscients des caprices de l'histoire, ils savent que ça peut se retourner d'un coup. Et je pense qu'ils étaient du coup plus sensibles à ce que le film essaie de faire comprendre. Oui. C'est pas un film qui regarde la civilisation alexandrine de façon béate en se disant « Ah là là, qu'est-ce qu'ils étaient intelligents !» Non, il leur manquait quelque chose qui nous manque encore aujourd'hui, qui est « Qu'est-ce qu'on fait de l'accès au savoir ?» Après, donc, sur les choix d'Amenabar de pas rester historiquement juste, il y a un aspect qu'il a complètement balayé. Il fait plus ou moins penser au spectateur que Hypatie est une athée. Ce qui n'était pas tout à fait le cas. C'était une femme incroyablement érudite, mais c'était aussi une femme qui pratiquait de la divination. Et la raison pour laquelle on la traite de sorcière à la fin, c'est aussi parce qu'elle avait des pratiques qui sont assimilables à la sorcellerie. Alors, je vais pas me lancer dans un débat qui est trop long, mais parce que dans le néoplatonisme, en fait, et dans l'hermétisme de l'époque de l'Alexandrie, il y a aussi les germes de ce qui va donner plus tard l'alchimie, en fait, en Europe. Et des tas de processus comme ça, complexes, magiques, ésotériques, tout vient plus ou moins de là. C'est vrai que Alexandrie au IVe siècle a été le centre d'une synthèse mystique, philosophique, scientifique, absolument extraordinaire, qui a tout contaminé après. Une fois que certains des textes vont être retrouvés, notamment les textes Termestris Megis, étaient traduits en Europe, ils vont être traduits par Marcile Ficin à Florence, pour les Médicis, et c'est ce qui va littéralement donner la Renaissance, en fait. Hein. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du magique dans ce savoir qui a été perdu pendant 500 ans et qui va revenir et se régénérer spontanément. Donc, le film raconte ça, mais il le raconte dans sa mise en scène. Il ne le dit pas dans son discours. Et c'est là où je trouve que le film est extraordinaire. C'est que vous verrez dans la scène d'ouverture, ça va super vite, mais vous allez voir un soleil qui a une forme pas tout à fait très régulière. Tout d'un coup, il est entre deux piliers égyptiens. Donc on sait qu'on est dans l'héritage de l'Égypte de l'Antiquité. Et on sait que les Égyptiens et le soleil, il y avait un rapport très particulier avec. Il y a un voile qui apparaît devant le soleil, qui est ce que les Égyptiens appelaient le voile d'Isis. Il nous cache quelque chose d'important et ce voile tombe parce qu'on a un cours sur la gravité, et celui qui ramasse ce tissu n'est pas la personne qui parle, mais un esclave, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a chuté de sa condition d'humain. Je sais pas, là, ce que je viens de décrire, ça doit faire 20 secondes, et on a déjà tout un système de résonance et de concordance qui s'est mis en place, qui n'est pas forcément là pour que le spectateur le décrypte, mais pour lui faire ressentir comment on pensait à cette époque. Et quand on verra dans le film, par exemple, tous les gens pleurer ou crier et la caméra s'éloigner dans le cosmos pour entendre la Terre pleurer, c'est pas seulement un geste poétique. C'est comme ça aussi que les gens de cette époque voyaient leur place au sein du cosmos. Leurs pleurs à eux étaient les pleurs du cosmos. Donc, ce que j'aime dans ce film, c'est ça, c'est que il nous raconte de façon sensible, pas seulement une page d'histoire, mais comment les gens de l'époque se vivaient eux-mêmes, en fait. Et ce que Hypatie est en train de rechercher scientifiquement, donc, cette histoire d'héliocentrisme, et qu'elle est bloquée par cette idée de perfection du cercle, elle n'arrive pas à le raccorder à ce qu'elle est elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fidèle à sa propre philosophie. Parce que si elle était fidèle à sa propre philosophie, elle accepterait l'idée qu'elle est imparfaite. Et qu'en tant parce qu'elle n'accepte pas, en fait, cette imperfection. Et si elle acceptait l'idée qu'elle est imparfaite, elle comprendrait que le cercle doit être une ellipse, en fait. Vous verrez dans le film un plan qui est très bref, mais qui en dit long, où elle essaie de comprendre et elle dessine un cercle, elle se met au centre et elle réalise pas qu'elle est le soleil, en fait. Elle est le soleil et les hommes de cette histoire, les hommes qui tournent autour d'elle, en fait, tournent de façon elliptique, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le récit et ils ressortent et ils reviennent et ils ressortent et ils sont tous attirés par elle. Elle brille, elle dégage une énergie incommensurable, mais elle n'arrive pas à comprendre son rôle, en fait, là-dedans. Si elle voulait créer l'harmonie, cette harmonie à travers qu'elle pourchasse, en fait, elle accepterait d'être le soleil, et à ce moment-là, les planètes, c'est-à-dire les astres errants que sont les hommes de sa vie, ne seraient pas partis dans tous les sens, quoi. Donc, le chaos que le film raconte, il est à la fois dans les recherches scientifiques d'Hypatie et dans son aveuglement, en fait. Donc, c'est typiquement de la pensée hermétique. C'est-à-dire, on est à ce niveau-là, et à ce niveau-là, et à ce niveau-là. Ce qui, pour un metteur en scène, est idéal, parce qu'on est dans la thématique, dans la symbolique, dans le direct, le franc, et l'intuitif, et le sentimental, et le, tu vois, tout ça est mêlé. C'est en ça que je trouve ce film vraiment admirable, quoi. Malheureusement, parce qu'il y a toujours un malheureusement.
C'était là où j'allais en venir. Voilà. Malheureusement, il n'a pas connu effectivement un écho admirable.
Cette érudition n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur, et surtout par la critique. Il y a la fâcheuse tendance de penser qu'elle est plus intelligente que les artistes. Mais le film a été accueilli d'une façon absolument désastreuse. C'est-à-dire, on a entendu parler de pub au Bao, de péplum BBC, etc. Des gens n'arrivent même pas à le situer dans le temps, parce qu'ils avaient tous l'impression que c'est un truc de Rome de l'Antiquité, alors qu'on est au 4e siècle, bordel. C'est quand même l'époque de Clovis, quoi, laquelle on bon. Et il faut relire les critiques d'époque pour voir à quel point ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils ont fait aucun effort pour accéder à ce film. Parce que c'est un film auquel on accède, et c'est là, peut-être, que c'est compliqué, à la fois par l'intellect et par la sensibilité. Oui. Il faut se laisser porter. C'est un vrai film émotionnel. Et par le biais de l'émotion, on peut raccorder avec ce que le film nous raconte profondément et ce que j'ai essayé maladroitement de débattre ici, quoi. C'est un film très riche, très érudit, et il n'y a pas beaucoup de péplum qui parviennent à cette synthèse. Et surtout, encore une fois, et j'insiste là-dessus, qui nous raconte une histoire comme les gens de l'époque auraient pu la vivre et la comprendre. Donc pour ça, bravo, chapeau. En plus, je trouve que pour un budget qui était relativement restreint, ils ont fait un énorme boulot. Vous allez voir que tout a été construit en dur à Malte, justement, puisque le mec, c'est là, un peu là-bas qu'il a eu son idée. Il s'est dit, de toute façon, c'est l'île idéale c'est le lieu idéal pour faire ce film. Je trouve que l'interprétation de Rachel Weisz compte parmi ses probablement son meilleur rôle, enfin en ce qui me concerne. Je l'ai jamais vu aussi aussi riche, en fait. Voilà. Puis on n'a pas eu beaucoup on a eu ces 10 dernières années tout un effort de fait pour remettre la femme au premier plan dans les productions d'envergure, etc., pour donner des rôles forts et tout ça. Et la plupart du temps, moi, j'ai pas mal de problèmes avec ce qu'on appelle des rôles forts féminins. Et lorsqu'il y en a vraiment, comme celui qu'on va voir là, ça passe complètement à la trappe. Pourtant, pour moi, c'est pour le coup un vrai rôle modèle, quoi. Tu vois, ce personnage d'Hypatie est absolument fascinant. Donc là, ce film a tous les à tout. Et c'est pour ça que je suis content que ce soir, il y ait quand même des gens qui ne l'aient jamais vu et qui se sont déplacés pour le découvrir. J'espère que les années vont lui être ainsi favorables parce qu'il le mérite.
Est-ce que justement, et on terminera peut-être là-dessus, est-ce qu'il a connu, est-ce qu'il fait partie de ces films maudits, on en a projeté quelques-uns ici, qui ont connu une seconde vie, en tout cas un début de succès dans le marché du DVD, de la vidéo,
non,
du Blu-ray.
Et c'est assez dommage, effectivement, en partie parce que c'est une production compliquée. Elle a été produite par plusieurs boîtes espagnoles, indépendantes et tout, avec des espèces de deals à l'étranger. Il a mis beaucoup de temps à se vendre aux États-Unis, notamment.
Oui, il est sorti de manière assez partielle. Voilà. Enfin, c'était très compliqué.
Et donc, il est dans aucun gros catalogue. Si c'était un film Universal, Warner, etc., même si c'est des bides, c'est des films qui circulent de toute façon, que tu retrouves sur les plateformes, sur Netflix, tout ça. Voilà. Et donc, les gens ont toujours une chance de pouvoir tomber dessus par hasard. Un film comme ça, il se retrouve un peu dans les limbes, en fait. Donc, il n'a pas encore eu la chance d'être redécouvert. Il faut justement des gens courageux comme nous, Thomas, pour l'imposer et amener d'autres gens à le découvrir. Ça prendra plus de temps, mais je pense que parce que c'est un film qui est excellent, de toute façon, il est condamné tôt ou tard à être découvert à sa juste valeur.
Et bah, démarrons dès à présent cette entreprise de réhabilitation d'Agora d'Amenabar. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup.
Merci,
Trafic. Merci au public et au Club de l'Étoile pour leur accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et puis, on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.